Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui déjà le deuxième dimanche du carême. Et pour bien comprendre et méditer sur les textes liturgiques que nous propose la Sainte Église en ce jour, il faut, je crois, passer aussi par la lecture du bréviaire, surtout des leçons de matine. Pourquoi? Parce que la lecture des leçons de matine, les leçons des pères de l'Église, va nous donner une certaine lumière pour nous faire comprendre les textes liturgiques utilisés pour la messe du dimanche. Aux matines d'aujourd'hui, on raconte l'histoire de Jacob et Ésaü, donc les fils d'Isaac. À la suite d'Abraham et d'Isaac, c'est Jacob qui, par une disposition providentielle, est choisi de façon, je veux dire, miraculeuse, de préférence à Ésaü, son aîné, pour devenir l'héritier des promesses et des bénédictions divines. Soyez le maître de vos frères, que les nations se prosternent devant vous, et toutes les nations seront bénies en vous et en celui qui naîtra de vous. Notre Seigneur Jésus-Christ est donc déjà annoncé par Jacob, qui va prendre la place d'Ésaü, pardon. Et donc, les pères expliquent qu'il faut voir dans le patriarche Jacob et Vincent, son aîné, pour devenir à sa place l'objet des prédilections divines, il faut voir une figure du Christ, second Adam, devenu de par Dieu à sa place le chef d'une humanité régénérée, bénie de Dieu, celui qui est l'objet de toutes les complaisances du Père Céleste en qui sont bénies toutes les nations. Et c'est ce qu'on va voir avec le texte de la Transfiguration. Il faut rapprocher donc ce texte des Pères et du livre de la Genèse, le texte de la Transfiguration. Vous connaissez ce texte, il est très très connu. Notre Seigneur Jésus-Christ va prendre avec lui Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 17. Et là, il fut transfiguré devant eux, au sommet du Tabor. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Et comme ils parlaient encore, voici qu'une nuée lumineuse les couvrit, symbole du Saint-Esprit. Voici qu'une voix sortit de la nuée, disant: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. Et donc une théophanie. Notre Seigneur Jésus-Christ, déjà manifeste, juste avant la Passion, manifeste, dévoile en quelque sorte à ses apôtres une partie de sa divinité pour leur faire comprendre que même si son humanité va sembler être écrasée pendant la Passion, eh bien sa divinité, elle, restera maîtresse de la situation. Et donc, les pères de l'Église ont rapproché du texte de la Genèse, donc cet évangile de la Transfiguration, parce que Dieu bénit son Fils revêtu de notre chair, comme Isaac avait béni Jacob revêtu des vêtements de son frère. Et saint Augustin, qui fait des peaux de chevreau qui vont couvrir les mains de Jacob, pour tromper Isaac, son père, qui est mourant. Donc, saint Augustin fait des peaux de chevreau le symbole du péché. Et voit en Jacob, qui s'en couvre le cou et les mains, l'image de celui qui, étant sans péché, a pris sur lui ceux d'autrui. C'est donc la même image. Notre Seigneur Jésus-Christ va prendre sur lui la croix que nous refaisons porter. Notre Seigneur Jésus-Christ va payer les péchés qu'il n'a pas connus, commis et que nous avons commis, que nous ne voulons pas réparer. Alors il va les réparer pour nous. Il faut, mes bien chers frères, méditer sur toutes ces choses. Pourquoi? Parce que la volonté du bon Dieu, c'est quoi? La volonté du bon Dieu, c'est qu'on aille au paradis avec lui. C'est pour ça qu'il meurt sur la croix. C'est pour ça qu'il est transfiguré, pour préparer un peu ses disciples, au moins Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, ses disciples préférés, à cette mort qui va arriver. Et donc, qu'est-ce que nous dit le texte de l'Épître? C'est l'Épître de saint Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, 1er aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 7. Le bon Dieu, par saint Paul, va nous demander de progresser dans cette sainteté. La volonté de Dieu est que vous soyez saints. Que vous marchiez ainsi de manière à progresser de plus en plus. Et à la fin de l'Épître, il va répéter la même chose. Après avoir dit la volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints, il va dire « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification en Jésus-Christ notre Seigneur. » En quoi consiste cette sainteté? Eh bien, cette sainteté va consister, nous aussi, à faire ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Il s'est couvert du péché des hommes qu'il n'avait pas commis. Eh bien, nous le devons justement apporter ces péchés que nous avons commis au tribunal de la pénitence pour pouvoir dire aux représentants de notre Seigneur Jésus-Christ, aux ministres, aux prêtres, pardonnez-moi Seigneur, pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché. Et donc, ce désir de sanctification, ce désir de changer de vie est représenté par la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le symbole de la transfiguration spirituelle par laquelle nous devons passer. Notre Seigneur Jésus-Christ se transfigure pour nous montrer justement que derrière son humanité est cachée sa divinité. Eh bien, nous aussi, nous devons nous transfigurer, et si nous enlevons le péché qui nous empêche de progresser vers le bon Dieu, alors nous pourrons justement faire apparaître, je dirais, l'étincelle divine qui se cache en nous et qui s'appelle l'état de grâce. Et si nous avons cette étincelle divine en nous le jour de notre mort, alors nous pourrons aller participer, jouir de la vision béatifique de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Donc cette transfiguration de notre Seigneur représente notre propre transfiguration. Nous devons transfigurer notre âme qui a été créée pour la gloire céleste. Nous devons transfigurer notre intelligence, transfigurer notre volonté, transfigurer notre cœur. Nous devons transfigurer notre intelligence d'abord en prenant soin d'utiliser notre intelligence pour découvrir le vrai, pour l'aimer, pour le désirer, pour nous mettre au service de ce vrai. Et si dans le passé nous avons mal utilisé notre intelligence pour gaspiller notre temps en cherchant avec notre intelligence des choses qui n'en valaient pas la peine, voire même des choses fausses ou des choses sales, eh bien il nous faut maintenant, par cette transfiguration, changer l'usage de notre intelligence pour être sûr que nous utilisions désormais notre intelligence pour atteindre le vrai. Et si, de par notre volonté, dans le passé, avec notre volonté, nous avons utilisé notre volonté pour nous éloigner du bien. Eh bien, il nous faut maintenant utiliser notre volonté pour atteindre ce bien. L'intelligence nous indique où est le vrai, et la volonté va nous mettre sur le chemin pour atteindre ce vrai. Ce n'est pas suffisant, mes bien chers frères, pour nous de savoir où est notre Seigneur Jésus-Christ, de savoir qui est le vrai, de savoir où est la vérité. Il faut qu'on l'atteigne, cette vérité. Et pour l'atteindre, il faut d'abord la connaître. Et plus on la connaît, plus on l'aimera. Et donc la volonté va nous indiquer comment atteindre cette vérité et posséder cette vérité. Et donc il nous faut, nous aussi, transfigurer notre volonté. Et après avoir transfiguré notre intelligence, après avoir transfiguré notre volonté, il nous faut aussi transfigurer notre cœur. Le cœur, encore une fois, c'est l'amour du bon Dieu, c'est pas l'amour de ce monde. C'est pas l'amour des choses de ce monde, c'est pas l'amour des trois concupiscences. Le cœur, c'est l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le bon Dieu ne nous a pas donné un cœur pour en faire ce qu'on veut. Et si dans le passé, j'ai mal utilisé ce cœur en aimant des choses qui n'en valent pas la peine, en donnant mon affection à des choses, à des personnes, à des occasions qui n'étaient pas celles que le bon Dieu voulait pour moi, eh bien, il me faut maintenant transfigurer mon cœur pour que, après avoir mal utilisé ce cœur, je l'utilise maintenant pour justement aimer davantage notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut que ce cœur couronne en quelque sorte l'intelligence et la volonté pour aimer notre Seigneur Jésus-Christ en gardant en moi, dans mon cœur, la grâce sanctifiante, c'est-à-dire la charité incarnée. J'ai pas trop le temps d'en parler ici pour pas rallonger ce sermon, mais je crois qu'on peut aussi utiliser pour comprendre ces textes liturgiques de très grandes fêtes, donc qui vont bientôt arriver, puisque nous sommes aujourd'hui le 17 mars, et le 19 mars, c'est la grande fête de Saint-Joseph, et le 25 mars sera la grande fête de l'Annonciation, et la plus grande fête de la Très Sainte Vierge Marie. Et je pense que si l'Église a placé dans cette même période liturgique du carême ces deux grandes fêtes, la fête de Saint-Joseph et la fête de l'Annonciation, c'est pas pour rien. C'est pour nous donner ces deux très grands saints comme exemple. Très Sainte Vierge Marie, qui est la reine de tous les saints, et Saint-Joseph, son saint époux. Voilà l'oraison de la fête de Saint-Joseph qu'il nous faut méditer. Que les mérites de l'époux de votre très sainte mère nous viennent en aide, Seigneur, pour que nous soient accordés par son intercession ce que nous pouvons obtenir par nos propres moyens. Et qu'est-ce qu'il nous faut obtenir et que nous ne pouvons obtenir par nos propres forces? Eh bien, c'est notre sanctification. On retrouve le texte, encore une fois, le texte de Saint Paul aux Thessaloniciens. La volonté de bon Dieu, la volonté divine, c'est que vous soyez saints. Car Dieu vous a appelé à la sanctification en Jésus-Christ notre Seigneur. Et si une personne nous a donné justement l'exemple de cette sanctification, c'est bien Saint Joseph, par son silence dans la prière, par son adoration. On dit que Saint Joseph est le grand silencieux de l'Évangile. C'est sans doute vrai. On n'a pratiquement aucune parole de Saint Joseph dans l'Évangile. Mais Saint Joseph était tellement saint que Dieu lui a confié ce qu'il avait de plus précieux au monde. Et ce qu'il avait de plus précieux au monde, c'était quoi? C'était sa Sainte Mère, et encore plus élevé que la Sainte Mère, son Fils unique. Donc Saint Joseph est tellement saint que Dieu lui confie la garde de la Sainte Famille, la garde de l'enfant Jésus, la garde de la Très Sainte Vierge Marie, la garde de la virginité de la Très Sainte Vierge Marie. Quelle sainteté! C'est ce grand silencieux de l'Évangile. Je vous donne les autres oraisons de la messe de Saint-Joseph qui sont splendides. En vous rendant, Seigneur, l'hommage de fidélité que nous vous devons, nous vous supplions humblement de garder en nous vos dons. Accordez-le-nous à la prière du bienheureux Joseph, l'époux de la mère de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous voulons honorer la fête en vous l'ouvrant aux offrandes et sacrifices de louange. Assistez-nous, Dieu de miséricorde, et à la prière de Saint Joseph, daignez garder en nous les dons de nous vous combler, vous nous combler. Mais de la même façon que Saint Joseph a protégé la Très Sainte Vierge Marie, la virginité de la Très Sainte Vierge Marie, et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, demandons à Saint Joseph, du haut du ciel, de venir protéger en nos cœurs, en nos âmes, la grâce sanctifiante qui y demeure. Si Saint Joseph a été choisi par Dieu pour garder la grâce sanctifiante incarnée qui était notre Seigneur Jésus-Christ, qui était vrai Dieu et vrai homme, et si notre Saint Joseph a été choisi par Dieu pour garder justement la virginité de notre Sainte Vierge Marie, demandons à Saint Joseph de faire la même chose dans notre cœur, de garder en notre cœur la virginité de la pureté en quelque sorte, et de garder en notre cœur aussi, non seulement la virginité de la pureté, mais de garder la grâce sanctifiante, le plus beau des trésors. Saint Joseph a gardé le plus grand trésor de l'Église catholique, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, donc il sait comment le faire, et il va le faire dans notre âme. Dans notre âme, si nous avons cette dévotion envers Saint Joseph, le mois de mars est un mois qui lui est consacré, eh bien demandons à Saint Joseph de garder dans notre cœur la grâce sanctifiante, comme il a su garder la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pendant tout son temps sur la terre, et comment, de la même façon aussi qu'il a pu protéger la pureté de notre Sainte Vierge Marie, la virginité de notre Sainte Vierge Marie pendant sa vie avec elle. Il faut méditer, mes bien chers frères, toutes ces choses très belles pour augmenter en nous l'amour du bon Dieu. Tous ces saints nous sont donnés comme exemple pour augmenter en nous l'amour du bon Dieu. Et évidemment, le deuxième exemple qui nous est donné derrière Ces textes magnifiques du carême, eh bien, c'est évidemment l'extraordinaire figure de notre Sainte Vierge Marie, la plus grande de toutes les saintes après notre Seigneur Jésus-Christ, la reine des martyrs, la reine du ciel. Ô Dieu qui avait voulu qu'à la parole de l'ange, votre Verbe, prit chair dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, accordez à nos prières que, la croyant véritablement Mère de Dieu, nous ayons un appui auprès de vous dans son intercession par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Elle avait reçu de Dieu ce don extraordinaire de devenir la Mère de Dieu. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que cette jeune fille de 14 ans qui allait devenir la Mère de Dieu soit préparée d'une façon toute spéciale par son Immaculée Conception. Elle est Immaculée Conception parce qu'elle allait, à partir de son corps, former le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a grandi avec le lait de la Très Sainte Vierge Marie. C'était l'accomplissement de la prophétie. La prophétie qu'on trouve dans le prophète Isaïe, « Une Vierge concevra ». Elle enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera du beurre et du miel en sorte qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Alors, demandons à Notre-Dame, qui nous est donnée comme cet exemple extraordinaire, de nous aider aussi, comme Saint-Joseph, à garder ce trésor qui est le nôtre, à savoir la grâce sanctifiante. Le plus grand trésor que nous ayons, c'est la grâce sanctifiante. Alors il faut demander à la Très Sainte Vierge Marie cette grâce. C'est pour ça qu'elle est là. Elle est là pour nous aider, parce que nous sommes ses enfants adoptifs. Notre Seigneur Jésus-Christ est son enfant naturel, dans la nature. Nous sommes les enfants par adoption de la Très Sainte Vierge Marie. Affermissez nos esprits, Seigneur, dans la croyance des mystères de la vraie foi, pour que, proclamant le Fils conçu de la Vierge, vraiment Dieu et homme, nous puissions, par la vertu de sa résurrection salutaire, parvenir à l'éternelle félicité. Répandez, Seigneur, votre grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de Jésus-Christ, votre Fils, nous parvenions, par les mérites de sa passion et de sa croix, à la gloire de sa résurrection. Ça, c'est le texte de la post-communion, de la messe de l'Annonciation, et qui a été choisi par l'Église pour être le texte de l'oraison que l'on dit à la fin de l'Angélus, que nous récitons trois fois par jour. Comme toutes ces choses, mes bien chers frères, sont importantes. Nous devons donc utiliser la Très Sainte Vierge Marie, utiliser Saint Joseph pour purifier notre âme, afin de garder plus facilement en notre âme ce trésor extraordinaire que le bon Dieu a mis dans notre âme pour la première fois le jour de notre baptême, mais qu'hélas nous avons peut-être perdu par le péché. Alors, puisque le bon Dieu a voulu et a permis que, par la sainte confession, nous puissions récupérer de nouveau la grâce sanctifiante, cette fois-ci, il faut être plus prudent et garder avec encore plus de soin cette grâce sanctifiante. Donc, passons par la Très Sainte Vierge Marie, passons aussi par Saint Joseph. Je vous lis ici la très belle prière, un peu comme en matière de conclusion de ce sermon, la très belle prière que le pontifical a retenu pour l'évêque au moment où il passe les gants avant de célébrer la messe pontificale. Voilà ce qu'il dit. « Recouvrez mes mains, Seigneur, de la pureté de l'homme nouveau qui est descendu du ciel afin que, comme Jacob, les mains recouvertes de peau de chevreau, obtint la bénédiction de son Père, moi aussi, en vous offrant de mes mains la victime du salut, je puisse obtenir la bénédiction de votre grâce par Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui, revêtu d'une chair semblable à notre chair de péché, s'offrit lui-même pour nous. » Alors, eh bien, chers frères, méditons ces textes. Je conseille beaucoup de lire pendant le carême. La plupart d'entre vous, bien sûr, vous ne pourrez pas, hélas, assister à la Sainte Messe du Carême tous les jours, mais vous savez qu'il y a une messe différente pour chaque jour du Carême. Bien, puisque vous ne pouvez pas y assister, peut-être que vous pourriez, pour justement vivre davantage les textes liturgiques du Carême, de lire soigneusement tous les jours, au moins l'Épître et l'Évangile de chaque jour du Carême. Cela vous nourrira votre âme pour que vous soyez plus fort avec l'aide du bon Dieu, l'aide aussi de la Sainte Vierge Marie, dans son annonciation, l'aide de Saint Joseph pour que vous soyez plus fort, pour que nous soyons plus forts, voilà pour moi bien sûr aussi, pour que nous soyons plus forts, pour garder vraiment en notre cœur, en notre âme, cette grâce sanctifiante, parce que si j'ai cette grâce sanctifiante, l'incarnation en moi de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce sanctifiante, c'est quoi? C'est l'habitation en moi de la Sainte Trinité, c'est pas autre chose. Eh bien, si j'ai cette grâce sanctifiante en moi, alors, pris par la main, par la Très Sainte Vierge Marie, à ce moment-là, je pourrai monter au ciel, et au ciel jouir pour toute l'éternité de cette grâce sanctifiante, et jouir pour toute l'éternité de l'essence divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Je serai comme les apôtres devant l'illumination de notre Seigneur Jésus-Christ, transfiguré par eux, transfiguré devant eux, qui tombe la face contre terre et qui dit: Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Eh bien, il est bon pour nous, mes bien chers frères, de méditer tous ces textes pour augmenter en nous la connaissance de Dieu, afin que nous augmentions l'amour de Dieu qui doit régner dans notre cœur. Et si cet amour du bon Dieu règne dans notre cœur, alors, avec la grâce du bon Dieu, nous pourrons un jour, avec l'aide de la Très Sainte Vierge Marie, monter au ciel et demeurer à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.